Je suis un extraterrestre. Je suis un extraterrestre de la planète chrétienne.
Je fais en ce moment une nouvelle série sur laquelle j'ai travaillé très dur cette semaine, intitulée « Comment être pieux dans un monde impie ». Je crois que c'est un défi de taille que d'aller dans le monde et d'être une personne pieuse, une personne vraiment pieuse, sans donner l'impression d'être une personne religieuse qui n'a pas la moindre idée de ce qui se passe vraiment. Vous savez, la Bible dit que nous devons être dans le monde, mais pas du monde. Mais beaucoup d'entre nous sont du monde et se comportent comme s'ils n'étaient pas dans le monde. Nous flottons sur notre nuage en chantant « l'Alléluia » encore toute la journée. Le Seigneur soit loué de toute façon, merci Jésus. Et parfois nous disons des choses vraiment idiotes aux gens qui souffrent. Non mais des choses vraiment idiotes aux gens qui souffrent. Je me rappelle une de mes amies qui était... Elle aimait vraiment Dieu, mais elle avait un caractère religieux tranchant. Et le mari d'une parente à moi est en fait mort. Et je me rappelle que quand mon amie lui parlait, elle essayait sincèrement de la consoler. Elle lui a dit, « Eh bien, tu sais, le Seigneur soit loué de toute façon. » Eh bien, vous savez, cela a offensé ma parente parce qu'elle n'était pas habituée à ce genre de truc. Et nous devons comprendre que nous pouvons nous parler d'une certaine façon, mais que nous devons faire attention à ce que nous disons aux gens qui n'ont pas la moindre idée de ce que nous disons. Nous ne devons pas nous comporter comme des extraterrestres d'une planète qui s'appelle la planète chrétienne. Je suis un extraterrestre. Je suis un extraterrestre de la planète chrétienne. Vous parlez la langue chrétienne et vous portez votre t-shirt Jésus sauve au travail et vous mettez votre casque à écouteurs et vous asseyez dans le coin pendant le déjeuner. Vous savez, vous dites, que suis-je censé faire? Eh bien, vous êtes censé être une lumière brillante dans un monde obscur. Vous êtes censé être ce que vous êtes tranquillement et calmement et merveilleusement et courageusement, sans compromis, mais continuer à être amical et à être une bénédiction avec ceux qui ont besoin de savoir ce que vous savez et qu'ils ne savent pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le monde est dans une condition désespérée. Désespérée. Ça m'effraie de penser comment les choses se sont détériorées en 50 ans depuis que j'étais adolescente. Juste en 50 ans, et ce que j'ai vu arriver est incroyable, incroyable. Vous savez, il y a 50 ans, si quelqu'un n'était pas marié, un homme et une femme, et qu'ils vivaient ensemble, il ne le racontait à personne. Non, mais il faisait tout ce qu'il pouvait pour le cacher. Les gens n'ont pas de problème à vous raconter ça. Non, mais ensuite, il y a eu une époque où ils pouvaient le raconter aux autres, mais pas à des gens comme moi, parce qu'ils avaient un certain respect pour les gens dans le ministère, et ils savaient que c'était mauvais. Cela ne les dérange plus. Le problème est qu'il n'y a plus trop de choses qui dérangent les gens. Et nous devons veiller à ne pas devenir comme le monde. Il y a trop de mélanges, trop de méli-mélo. Les limites deviennent trop effacées. Et je crois que personne ne le fait exprès, mais je crois que nous devons peut-être faire un peu plus de sermons sur la façon d'être un exemple dans le monde. Et la façon de se comporter, et non seulement, écoutez, Dieu vous aime, il a un plan merveilleux pour votre vie, il veut que vous prospériez, il veut que vous réussissiez, il veut que vous ayez le mieux en toutes choses. Quand vous péchez, vous pouvez être pardonné, la grâce de Dieu vous change, vous ne pouvez pas par les œuvres de la chair. J'aime prêcher toutes ces choses qui amènent les gens à se dire, oh, oui, il n'y a aucun problème avec quoi que ce soit, Dieu m'aime, et quoi que je fasse, il va me pardonner. Amen, merci Jésus. Mais, je ne vous rends pas justice si je ne vous prêche pas aussi l'autre vérité, comme quoi la Bible dit que le jour viendra où chaque homme comparaîtra devant Dieu et rendra compte de sa vie. Chaque homme comparaîtra devant Dieu et rendra compte de sa vie. Et vous savez, quand je dis quelque chose comme ça, il n'y a que le quart des gens qui applaudissent. Parce que ça nous fait vraiment peur. Ça nous effraie. Eh bien, vous savez quoi? Je crois que l'amour de Dieu amène les gens à se repentir. Mais je crois que s'il le faut, Dieu essaiera de faire une peur bleue aux gens et je serai prête à l'aider. Amen. J'aurais voulu vous dire combien Dieu vous aime et que vous répondiez à son amour. Et quand je dis vous, je parle non seulement de vous, mais encore de tous les millions des gens qui nous regardent à la télé. Je ne viens pas faire ces réunions juste pour les gens qui viennent aux réunions. Je les fais non seulement pour vous, mais encore pour tous les gens qui regardent ces conférences à la télé plus tard dans le monde entier. Et il y a des multitudes de gens qui me regardent aujourd'hui et qui ont de sérieux, sérieux ennuis dans leur vie. Vous avez vécu une vie de péché et maintenant vous en récoltez les conséquences et vous ne savez pas quoi faire. Eh bien, Jésus est votre solution. Il vous aime, il est mort pour vous, vous pouvez être pardonné, vous pouvez prendre un nouveau départ. Écoutez-moi, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Mais il y a aussi des multitudes de croyants qui me regardent maintenant. Mais vous êtes tiède. Vous avez un pied dans le monde et un pied dans le royaume. La Bible dit dans Apocalypse, « Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche maintenant. » Je ne vais même pas aller là et comprendre ce que cela veut dire. Je sais assez pour savoir que Dieu n'aime pas ça. Donc laissons cette chose comme elle est. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Venons-en à la théologie. Que veut dire qu'il va vous vomir de sa bouche? Eh bien non, mais je croyais que si on est sauvé, on est sauvé. Et je ne comprends pas tout ça. Vous savez... Ayons un peu plus de crainte révérentielle et disons, je ne veux être tiède à ce moment-là. Je veux m'enflammer, être ardent, en feu, être audacieux, être agressif et servir Dieu de tout mon cœur. Et cela ne veut pas dire non plus aller dans le monde et voir à quel point nous pouvons être odieux. Ce n'est pas ce que cela veut dire, mais cela veut dire que vous devez allumer la lumière, que vous devez mettre un peu de sel sur votre vie avant de sortir. J'aime l'idée d'être la saveur de ce monde. La saveur partout où que nous allions. Vous savez quoi? Le monde est très insipide sans Dieu. Vraiment insipide. Mais nous sommes le sel et la lumière du monde. Regardez-moi tous. Vous avez un travail. Et c'est au-delà de s'asseoir là et de rester bouche bée devant les pasteurs. Et c'est au-delà de prendre votre télécommande, de vous allonger sur votre lit confortable et d'appuyer sur ma chaîne. Nous apprenons pour mettre en pratique. Amen. Donc ce matin, nous allons parler davantage de la même chose. En fait, nous allons en parler tout le week-end. Nous allons entrer dans de petits domaines. Il va falloir être courageux, car nous allons parler de la sainteté. Nous verrons qui va retourner. Eh bien, sœur, je faisais partie du mouvement de la sainteté en grandissant, et j'ai eu tout ce légalisme. Écoutez, je vais l'enseigner d'une façon très équilibrée. Nous allons nous amuser, mais vous savez quoi? Quand nous partirons d'ici ce soir, nous serons prêts à le faire d'une meilleure façon que nous le faisions par le passé. Luc 4, 5 à 8. Nous allons parler de la tromperie et du compromis. Et le diable, le menant sur une haute montagne, lui montra tous les royaumes de la terre habités en un instant, en un clin d'œil. Et il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir, toute cette autorité et toute leur gloire, toute leur splendeur, excellence, prééminence, dignité et beauté, car elle m'a été donnée et je la donne. Je la donne à qui je veux. » Donc, si tu te prosternes juste une fois devant moi, juste une fois, tu auras tout ça. Regardons le verset d'après. Et Jésus lui répondit, « Arrière de moi, Satan. » Allez maintenant, tout dépend de ça. Jésus a été tenté d'accepter un compromis juste une fois pour obtenir quelque chose. Il n'était pas à l'aise à ce moment-là. Je peux te donner le confort. Je peux te soulager de ta souffrance. Je peux tout te donner si tu acceptes un compromis juste une fois, juste un peu. Vous savez qu'est-ce qu'un compromis? Un compromis veut dire aller un peu au-dessous de ce que vous savez être bien. Un petit peu. Un petit peu. Une seule fois. Tout le monde fait ça. Dieu est miséricordieux. Vous serez pardonnés. Combien d'entre vous sont contents que Jésus n'ait pas accepté de compromis quand il a eu cette tentation? Je me demande combien nous compromettons nos vies avec ces petites choses que nous croyons vraiment sans importance. Jésus a dit immédiatement « arrière de moi, Satan ». Paul a dit à l'église de Galates « un peu de levain fait lever toute la pâte ». Le levain ressemble à la levure. Et bien que je ne sois pas une grande boulangère, je sais que si vous mélangez la farine et l'eau et que vous essayez de les faire cuire, vous aurez quelque chose de plat. Mais si vous y mettez de la levure ou du levain, ça changera toute sa forme. Et donc, le message que l'apôtre Paul essayait de donner à l'Église, bien qu'il leur dit de ne pas revenir au légalisme, le message peut être pris dans un sens beaucoup plus large, comme quoi n'importe quel petit compromis que nous acceptons est en fait capable de déformer tout. Vous devez faire très attention à ces petites, petites choses. Jacques 4, 17 dit « Savoir ce qui est bien à faire et ne pas le faire est un péché. » Donc nous avons les péchés de perpétration, les péchés que nous commettons, et ensuite nous avons les péchés d'omission, les choses que nous savons que nous devons faire et que nous ne faisons pas. Et à vrai dire, je crois qu'il y a plus de péchés d'omission qu'il n'y en a de perpétration. Peut-être que notre problème est de ne pas faire assez de bien. Il ne s'agit pas tant du mal que nous faisons que du bien que nous ne faisons pas. Dave a partagé qu'il y a 60 millions de chrétiens et seulement 30 millions sont enregistrés pour voter. Et de ces 30 millions qui sont enregistrés, 14 millions ne se donnent pas la peine de voter. Maintenant, les gens savent que c'est mauvais. Pourquoi donc il ne veut pas? Il pleut. Mais quand les choses tombent à l'eau parce que nous ne nous sommes pas donné la peine d'élire les gens qu'il faut, tout le monde se plaint, eh bien, ils doivent faire quelque chose, ils. Il est temps que nous prenions notre responsabilité sur beaucoup de plans dans la vie. Et vous savez quoi? Plus vous êtes responsable, plus vous serez heureux. Il n'y a rien dans la vie paresseuse, apathique et passive qui rende quelqu'un heureux. Vous applaudissez faiblement, mais je vais continuer. Nous verrons où nous arriverons. Vous savez quoi? Je vais vous lancer un défi aujourd'hui. Au moment où nous partirons ce matin, je voudrais que tout le monde ait pris la décision d'aller dans le monde et de se comporter un peu mieux qu'il n'était avant de venir ici aujourd'hui. Car aussi fréquemment que nous disions, eh bien, Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît vraiment nos cœurs et je suis reconnaissante qu'il traite avec nous d'après nos cœurs. Mais le monde ne peut voir que nos comportements. Et nous sommes le panneau d'affichage de Jésus-Christ. Nos vies, l'Église, nous sommes le panneau d'affichage, la publicité, si vous voulez, de Jésus. Voudriez-vous avoir ma vie? Eh bien, non, merci. Nous devons être des gens heureux, paisibles, affectueux, généreux, indulgents, patients, tout le fruit de l'esprit aimable, bienveillant. J'ai quelques bonnes personnes au milieu de cette section ici qui... Je crois que vous êtes revenus aux mêmes places. Vous étiez avec moi hier soir aussi. Il n'y a pas une seule personne ici, y compris moi, qui ne puisse prendre la décision de s'élever à un niveau un peu plus haut dans son comportement. Pas une seule personne, aucune de nous. Et ça s'appelle la croissance. Elle ne se produit pas comme ça, sans aucune activité de notre part. Regardons de nouveau Romains 14. Laissez-moi vous effrayer encore un peu. Romains 14, 11 et 12. Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu, reconnaîtra son honneur et le louera. Ainsi, chacun de nous rendra compte pour lui-même. Je veux que vous pensiez à ça. Pensez-y un peu. Vous dites, eh bien, je croyais que j'étais sauvé par la grâce et que quand je comparaîtrai devant Dieu, tout ce que je devais faire, c'est de dire que je crois en Jésus. Eh bien, c'est tout ce que vous devez faire pour être sauvé et aller au ciel, mais je crois que Dieu voudrait avoir un peu plus de vous que cela. C'est une décision que nous devons prendre aujourd'hui. Voulez-vous juste aller au ciel ou voulez-vous prendre un groupe de gens avec vous? Non, mais je crois que la question est là. Vraiment, si vous voulez la vérité, je distribue des demandes d'emploi aujourd'hui. Qui dans ce lieu voudrait travailler pour Dieu? Et si vous croyez que je vous offre un travail dans mon ministère, ce n'est pas le cas. Je dis, qui de vous dans cette salle veut aujourd'hui remplir une demande d'emploi et aller travailler pour Dieu là où vous êtes, dans votre voisinage, dans votre lieu de travail, là où vous faites vos courses, là où vous allez à l'école? Nous devons arrêter d'être pieux ou une certaine forme de ce que nous croyons être la piété quand nous sommes avec nos autres prétendus amis pieux. Et ensuite se comporter comme les autres quand nous sortons avec les autres. Est-ce que vous potinez et vous vous complaignez à la table du déjeuner comme tous vos collègues? Non, sauvé? Est-ce que vous volez les stylos à billes et vous les prenez à la maison? Passez-vous la journée à jouer sur Internet quand votre patron ne vous voit pas? Dieu soit béni, il ne me paye pas assez en tout cas. Oh, arrêtez ça. Même s'il ne vous paye pas assez, on ne répare pas une injustice par une autre. Les volets ne vont pas vous compenser. Chaque homme comparaîtra devant Dieu et rendra compte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je viens de prendre une décision. Je veux que Dieu soit fier de moi. Je veux vraiment qu'il soit fier de moi. Je sais que je ne suis pas parfaite et que j'ai beaucoup de chemin à faire. Mais je veux que Dieu soit fier de moi et je veux que Dieu soit fier de vous. Je ne vais pas passer toute ma vie à faire ce que je fais et que je fais depuis 35 ans déjà. Et si je vais vraiment faire ça jusqu'à mon dernier souffle, vous n'allez pas juste vous asseoir là et ne jamais changer. Ce n'est pas comme ça que nous allons conclure l'affaire. Vous feriez aussi bien de vous préparer à changer, sinon vous pourriez arrêter de m'écouter, car ce sera très agaçant de continuer à m'écouter si vous ne voulez pas changer. Je vais vous mettre mal à l'aise si vous ne voulez pas changer. La tiédeur ne va pas marcher. Le compromis ne va pas marcher. Les excuses ne vont pas marcher. L'apitoiement sur soi ne va pas marcher. Oh, alléluia! Regardons Matthieu 23, regardons un petit malheur ici. Malheur à vous. Christine Kane est arrivée pour nous rejoindre et elle m'a dit, « Je n'arrive pas à croire que tu aies eu le cran de prêcher sur les malheurs. » Quand quelqu'un vous dit, « Qu'a prêché Joyce ce week-end ?» Dites-lui le malheur. Le malheur. Il y a beaucoup de malheurs dans la Bible, et à dire vrai, si je me tenais ici pour les lire tous, nous aurions tous peur, vraiment peur. J'ai passé beaucoup d'années sans savoir ce que c'était, mais ça a l'air effrayant. Je n'envisageais pas de l'aborder, mais je me suis donné la peine de le chercher dans le dictionnaire en préparant ce message, et le malheur veut dire le pire genre de souffrance. Comme un genre de souffrance auquel vous ne pouvez pas échapper, quoi que vous fassiez. Et donc, quand nous voyons « malheur à vous qui faites tel ou tel », comme j'ai partagé hier soir dans Ésaïe, il dit « malheur aux juges qui prescrivent des lois malfaisantes ». Waouh, je ne veux pas être un de ces juges qui ont fait certaines des décisions qui sont faites aujourd'hui. Mais ce qu'il y a, c'est que le jour viendra où ils auront à rendre compte de leurs actions. Peuvent-ils être pardonnés? Oui, et je prie qu'ils se repentent avant de faire face à Dieu et qu'ils soient pardonnés. Et quand vous vous tournez vers Dieu, il efface vos péchés, il les oublie et il les éloigne de vous autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Et Dieu ne va pas parler de votre passé. J'essaie d'enseigner ça d'une façon équilibrée pour que nous comprenions que Dieu nous aime et que nous ne devons pas vivre avec le mauvais genre de crainte, mais que nous devons avoir une crainte révérentielle et respecter Dieu qui fait ce qu'il dit qu'il va faire. Donc il y a toutes sortes de malheurs, mais ces malheurs sont pour la foule religieuse. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens prétentieux et hypocrites. Vous pensez, je suis content que ce ne soit pas moi. Eh bien, vous savez ce qu'est une personne religieuse? Une personne religieuse, juste pour le mettre en temps simple, serait quelqu'un qui marche au pas à l'église toutes les semaines et qui a transformé sa Bible en un album à colorier. Il surligne tout en rouge et en jaune et en rose. Et je suis moi-même fanat de rose en ce moment. Je me suis acheté de nouveaux marqueurs roses et mince alors, j'enjolive le tout. Vous voyez ces roses partout sur mon message aujourd'hui. J'aime ça. Et ensuite, quand je deviens sérieuse à propos de quelque chose, vous voyez, j'ai une grande étoile de couleur rose à côté de ça, donc... Oh, oh! Cela veut dire que c'est vraiment sérieux. Donc, vous pouvez aller à l'église 3 fois par semaine. Vous pouvez mémoriser les versets. Vous pouvez même surligner votre Bible. Mais comment vous vous comportez dans le monde? Combien de temps vous faut-il pour pardonner quand quelqu'un vous blesse? J'ai dit, combien de temps vous faut-il pour pardonner quand quelqu'un vous blesse? Avec qui êtes-vous fâché? Eh bien, c'est devenu calme. Oh, je ferais mieux de m'asseoir et de bavarder maternellement avec vous. Avec qui vous êtes fâché en ce moment? Non, mais il y a tant de gens qui vont à l'église fâchés tout le temps. Sur qui potinez-vous? Qui avez-vous jugé et critiqué? Vous vous êtes mêlé des affaires de qui à part les autres? Oh, je me sens si ouinte aujourd'hui. Eh bien... J'ai tant de problèmes dans ma vie et j'ai cru que si je venais à ta conférence, je serais sûrement consolée. Et je vous l'ai déjà dit ce matin et je ne plaisante pas, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et je veux que vous soyez heureux et que vous ayez la meilleure vie qui soit, mais ça en fait partie. Et quiconque ne vous parle pas des deux aspects ne vous aime vraiment pas. Ils vous prêchent quelque chose que vous aimerez et que vous applaudirez parce que ça leur fait plaisir. Il est temps que l'Église se réveille et comprenne que selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, nous sommes les représentants personnels de Christ dans le monde. Mettez 2 Corinthiens 5 verset 20 sur l'écran. C'est un verset étonnant. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, Dieu exhortant par notre moyen, pour ainsi dire. Comme représentants personnels de Christ, nous vous supplions pour lui de tenir ferme à la faveur divine qui vous est offerte maintenant et d'être réconciliés avec Dieu. Donc il dit, nous sommes les représentants personnels de Christ et par nos vies, Dieu implore les gens, soyez réconciliés avec moi. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous allez au travail, Dieu veut implorer par vous quelqu'un qui est perdu, s'il vous plaît. Et vous n'avez même pas besoin de prêcher un mot pour faire ça. Vous dites, eh bien Joyce, je ne suis pas bon en témoignage. Que vos vies soient le témoignage. Si vous êtes assez courageux pour dire quelque chose et vous croyez que c'est le bon moment, dites-le dans l'amour. Donnez une Bible à quelqu'un, mais que vos propres vies... soit le témoignage. Quand Dave a travaillé dans l'ingénierie, tout le monde savait qu'il était différent. Il le savait. Et je ne veux pas dire différent d'une façon bizarre. Mais oui, il y avait des choses qu'il n'invitait pas Dave à faire. Il déjeunait tout seul beaucoup de fois. Quand leur mariage s'effondrait... Non mais vraiment, tout le monde venait à lui. Même les gens qui s'étaient moqués de lui, même les gens qui lui avaient peut-être rendu la vie impossible ou ont essayé de le persécuter. Ils venaient à Dave, ils avaient de grandes planches à dessin à l'époque parce qu'ils étaient dans le domaine de l'ingénierie. Ils traînaient autour de sa planche à dessin. Hey Dave, comment ça va aujourd'hui? Eh bien, vous savez, quoi que ce soit, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, eh bien, ma femme m'a quitté, je me demandais si tu pouvais me parler un peu. Vous voyez, si vous tenez bon, les gens viendront à vous. Car le jour viendra où ils seront assez désespérés qu'ils auront besoin de parler à quelqu'un. J'ai mentionné ceci dans cet enseignement, mais pensez-y encore une fois. Qu'arriverait-il dans le monde où nous vivons si tous ceux qui prétendent être chrétiens allaient en fait dans le monde et se comporter comme tels? Nous devons nous garder d'accepter les compromis. C'est facile d'accepter un compromis, mais c'est très coûteux. Nous ne devons pas faire ça. C'est très important que nous apprenions à être pieux dans un monde impie.